Quotidien Le Monde. Linda Lay pour sa lettre à l'enfant que je n'aurai pas, chez Neil.
C'est un sujet immense auquel elle donne une voix.
Et Mathieu Terrence pour son éloge de la joie, chez Folio.
C'est un condensé parfois de poésie.
Les liaisons heureuses. Demain, à partir de 15h. France Inter. La différence.
Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet, maintenant avec le répondeur.
Bonjour, c'est Dominique de Marseille aujourd'hui, mais j'étais à Paris dans les années 60. Je voulais faire quelques précisions et quelques hommages qui n'ont pas été faits au cours de cette émission. En premier lieu, rendre hommage au premier qui a fait connaître ce massacre, à savoir le photographe Élie Kagan, mort hélas en 1999. Et aussi rendre hommage au quotidien Libération, qui dès le 17 octobre 1980 a consacré plus de 2 pages de son quotidien à ce massacre. Et enfin, à ceux qui ont manifesté le 17 octobre 1981 sur les grands boulevards pour commémorer ce triste événement. Je pense que c'est important de rendre ces hommages parce que, effectivement, un certain nombre de militants se sont battus et se battent encore pour faire en sorte que soit connu ce massacre et que soit redonné à l'histoire la lutte des militants du FLN en 1961.
Oui, bonjour, j'ai écouté votre émission, je l'avais déjà écoutée il y a 20 ans. Mon opinion n'a pas changé, c'est que je trouve ça très bien, mais le général de Gaulle, c'est curieux, hein. Je suis étonné de la part de Daniel Mermet, bien sûr, c'est toujours dit, mais la jeunesse, les gens doivent savoir que c'est le général de Gaulle. On parle toujours de Papon, on parle toujours de Marcellin, mais moi j'avais 20 ans, et je peux vous dire qu'on était remonté, c'est de Gaulle qui est responsable, mais il ne faut pas toucher à de Gaulle. De Gaulle, c'est comme Jeanne d'Arc ou Dieu. Il ne faut pas y toucher. C'est très important aujourd'hui pour la politique. Il faudrait quand même que la jeunesse et que les gens sachent la responsabilité du général de Gaulle. Général de Gaulle. Voilà. Merci. À bientôt.
Ah, mon Mermet, comme j'aime ton émission sectaire et orientée. L'émission d'un adversaire politique, c'est un peu le sel de la vie. Ça fait des poussées d'adrénaline. En tant que Français, que tu es, je crois, laisse les médias algériens contrôler, faire ton boulot, ils savent faire, ils ne s'autoflagellent pas, eux. Parle plutôt des crimes des assassins du FLN, qui furent très nombreux et horribles, le 5 juillet 1962 à Oran, 2500 petits blancs qui votaient souvent communistes, tués, pendus ou disparus par les tueurs du FLN, les tueries de Mélouza en 1956 par le FLN, sur leurs compatriotes du MLA de Messali. Enfin, les innombrables attentats aveugles, tuant civils, enfants, vieux de toute confession, aidés dans leurs crimes par les porteurs de valises français, aidant à tuer nos soldats du contingent, etc., etc. Salut Mermet, c'était Robert qui adore t'écouter. Salut.
Merci Daniel pour ce retour sur mémoire, car on ne gagne rien à mentir ou à oublier en histoire. Et je pense à cette phrase d'Eduardo Galeano, qui peut nous aider à faire vivre la mémoire autrement. La mémoire vivante n'est pas née pour servir d'encre. Elle a plutôt vocation à être une catapulte. Elle ne veut pas être havre d'arrivée, mais port de départ. Elle ne renie pas la nostalgie, mais elle lui préfère l'espoir, ses dangers, ses intempéries.
Bonjour. En 1946, mon père a 20 ans. Originaire de Picardie, il part à Tizi Ouzou en Kabylie pour son service militaire. Il est mécanicien chauffeur des officiers. Lors d'une sortie de la garnison, de jeunes Kabyles mendient. Mon père a des difficultés pour éviter, il court autour du camion qui roule. L'officier, côté passager, lui dit « T'embête pas, écrase, c'est comme des rats ». Il n'a rien écrasé. Il a gravé ses paroles dans sa mémoire, me les a témoignées. Voilà. Moi, sa fille, je suis mariée depuis 27 ans. Laurence, à Mohamed, grâce à Dieu. Merci pour votre émission.
Merci pour tous ces messages. Suite à l'émission d'hier sur le 17 octobre 1961, ça fait 50 ans, et nous consacrons à nouveau aujourd'hui une heure à ce sujet, à partir des plusieurs séries d'émissions qu'on a consacrées au 17 octobre, à commencer par celle de 1991, une première série à cette époque-là. Et puis on est revenu assez souvent sur ce sujet. Et aujourd'hui, on vous propose cette nouvelle émission. Vous voyez qu'aussitôt, dès qu'on touche, dès qu'on élève la voix sur ce 17 octobre, il y a des réactions coléreuses, fielleuses, de la rancœur et aussi beaucoup d'émotions, comme si cette souffrance ne devait jamais prendre fin, comme si cette blessure ne pouvait jamais être refermée. Quand je dis cette blessure, en effet, il faut dire ces blessures, parce que s'il y a eu celle-ci, celle du 17 octobre 1961, on ne manquera pas évidemment d'évoquer Sharon en février prochain, puisque ce sera aussi là le 50e anniversaire, mais il y eut bien sûr d'autres crimes épouvantables au cours de cette guerre d'Algérie, la guerre sans nom, la guerre qui ne disait pas son nom, et notamment dans cette année 1962 avec la rue d'Isly, avec les massacres de juillet 1962 et ensuite les massacres des Harkis à l'automne 1962. Et évidemment qu'il ne faut pas faire d'impasse sur ces crimes-là. Mais aujourd'hui, c'est le 17 octobre 1961, ça s'est passé à Paris, ça s'est passé sous nos yeux et, j'ai eu l'occasion de le dire, sous les miens, puisque j'étais présent sur le pont Saint-Michel il y a exactement 50 ans. C'est une des raisons pour laquelle nous revenons sur ce sujet, c'est évidemment pas la seule. Il y a 20 ans, nous avons donc consacré, je le disais, une série d'émissions, et c'était le début, on peut dire, du réveil, une sorte de réveil. Pendant 30 années, ce pogrom était passé sous silence, avait été balancé sous le tapis, à part quelques publications, quelques ouvrages, quelques articles, mais c'était vraiment extrêmement réduit. Et puis, il y a 20 ans, des livres, des films, et depuis, beaucoup de travail a été fait. Les chercheurs, ouverture des archives insuffisantes, mais tout de même, on sait à peu près aujourd'hui, le 17 octobre a pris sa place dans la mémoire et dans l'histoire. Reste l'essentiel, reste par l'État, la reconnaissance de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est indispensable, c'est une revendication très forte qui sera entendue lundi prochain, donc pour le 50e anniversaire, 17 octobre 2011, lors d'une manifestation qui partira du Rex, le cinéma Le Rex, à Paris, pour descendre jusqu'au pont Saint-Michel. Jusque-là, nous disent les organisateurs, la préfecture de police n'a toujours pas donné son autorisation. 50 ans après, il y a comme une sorte d'entêtement et de répétition. La manifestation, disent-ils, aura lieu quand même, mais elle aura évidemment pour but le souvenir, la mémoire, et aussi cette revendication d'exiger bel et bien que l'État reconnaisse ses responsabilités dans ce qui s'est passé à cette époque-là, ce jour-là, afin de limiter, d'essayer d'en finir avec cette interminable gangrène. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Demain, c'est le 15 octobre. Oui, c'est le 15 octobre. Eh bien, j'espère, chers AMG, vous qui avez les sens aiguisés, que vous savez tous que le 15 octobre, il y a la grande journée nationale de manifestation organisée par les coordinations antinucléaires de France, et que le même 15 octobre, à l'appel des indignés d'Espagne, il y a également des rassemblements dont on a très 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 peu parlé dans la presse, et je pense que maintenant que les États-Unis s'y sont mis, il serait quand même temps que nos médias se réveillent. Il y a un appel à venir soutenir ou se rassembler pour exprimer les mêmes revendications. Salut !
Un message pour tous ceux qui connaissent Hélène, qui habite dans le sud-est, qui habite sur le canton de Fayence, dans la proximité. Tous ceux qui ont eu la chance de rencontrer Hélène, que ce soit dans le basilic, dans le champ, ou dans l'engagement, ben, aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc voilà, on voulait lui souhaiter un bel anniversaire. Bisous Hélène.
Chers AMG, bonjour. Avez-vous remarqué le consensus politico-médiatique pour éviter le sujet de l'Afghanistan? Et pourtant, n'oubliez pas ces quelques chiffres. 10 ans de guerre, 4000 soldats français engagés, 75 morts, 500 blessés, coût pour le contribuable français, 1,3 million d'euros par jour, et nombre de questions et de minutes consacrées au sujet, mercredi dernier lors du débat des primaires, zéro. Et oui, zéro. Un chiffre qui colle assez bien au niveau des intervieweurs ce soir-là.
Salut à toute l'équipe, c'est Françoise du repère d'Anner dans les Hautes-Pyrénées. Pour rappeler à tous les AMG des environs que notre rendez-vous mensuel aura lieu aujourd'hui, vendredi 14 octobre, avec la projection à 21h du film « Bernard, ni Dieu, ni chaussettes » de la coopérative des mutins de Pangée. C'est l'histoire de Bernard Guaigné, un paysan des bords de Loire et un gardien de la mémoire du poète Gaston Coutet, héritier de François Villon. Le film sera précédé d'un casse-croûte vers 20h, comme d'habitude, et suivi d'un débat. Voilà, nous vous espérons nombreux pour venir partager cette soirée.
Salut Daniel, c'est Fabien, je suis coursier cycliste à Paris et j'avais un pli pour un hôtel dans le centre de Paris. Je vais les citer, Novotel. Donc je voulais signaler qu'il y avait une partie du personnel qui faisait beaucoup de bruit, beaucoup de musique et qui manifestait pour leurs conditions de travail, de salaire, etc. Et apparemment ça fait 8 jours que ça dure et ça faisait beaucoup de ramdam dans ce hall feutré. Donc voilà, c'est super. Merci, au revoir.
Le 17 octobre 61 reste gravé comme une grosse tache dans l'histoire de la France. Un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions Les Petits Matins présente les documents de l'époque. Les auteurs de ce livre seront présents avec 50 autres auteurs après-demain dimanche au 9e Festival du Livre et de la Presse d'écologie à la Bellevilloise, Paris 20e, métro Gambetta. Entrée libre et gratuite. Vous pourrez discuter avec les militants de l'association Sortir du colonialisme. À dimanche, c'est Jacques.
Ce matin, bien sûr, France Inter, on a entendu... Dans la chronique, on a entendu parler du soldat Chaïd qui allait sortir de prison, ce dont moi je me réjouis très fortement. Mais on a oublié aussi Salah Hamouri, qui est lui aussi franco-palestinien et qui est toujours et qui restera dans les prisons israéliennes. Au revoir.
Samedi prochain, le 15 octobre, le CLIC organise un rassemblement avec animation Place Olivier au quartier Saint-Cyprien à Toulouse. Le CLIC, c'est le comité de liaison des collectifs de soutien aux personnes sans papier. C'était Gérard de Toulouse.
J'ai vécu l'occupation, c'est sûr, j'étais môme, j'avais 14 ans, 15 ans, mais à cette époque, je sais ce qu'était la fin à cette époque. Et j'ai eu le triste privilège de passer 24 heures aux Veldives. Lors de la rafle des Juifs, on avait demandé des jeunes volontaires pour distribuer les rations de la Croix-Rouge suisse, et j'y avais été. J'avais vu les forces de l'ordre, enfin, les gardes mobiles français, j'avais vu des femmes qui criaient avec leurs enfants dans les bras, certaines qui voulaient se suicider car qu'elles sentaient pour certaines ce qui allait leur arriver, j'ai l'impression. Et puis ces pauvres gens hébétés... Ces enfants, ces adolescents de mon âge qui étaient là. Et on se demandait avec mes copains qu'est-ce qu'ils vont devenir. On nous a dit, bon, on va aller. Ils les amènent en Allemagne pour les faire travailler et tout ça. Bon. Mais quand j'en ai parlé autour de moi, personne n'a réagi. J'ai senti qu'on me disait, qu'on me faisait comprendre que le mieux était de fermer sa gueule. Il y a eu tout un lâche silence qui s'est fait. Et je n'étais pas le seul, il y a quand même eu certainement des centaines de chauffeurs d'autobus, des milliers de policiers, des Français qui ont participé. Et c'était bon, tous les habitants du quartier, tous ceux... Au contraire, certains sont précipités pour piquer les meubles et tout ça, c'est affreux. Bon, à partir de ce moment, j'ai compris que l'homme, quelquefois, pouvait être une bête. Et qu'il était difficile de lutter contre la force d'inertie. J'ai eu quelquefois honte. Honte comme j'avais honte le soir du 17 octobre. ça peut être motivé tous mes engagements par la suite. Dans des milieux de la catholique, on me disait la lutte des classes n'existe pas. Je savais qu'elle existait. Sous des formes différentes, non pas forcément sous la forme marxiste, mais qu'il y avait bien les exploités, les exploiteurs. J'ai rencontré pour la dernière fois au Veldiv une amie qui avait 15 ans et qui n'est jamais revenue.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. Là-bas, si j'y suis, 17 octobre 1961, une journée portée disparue.
Flight number 2, arriving from New York.
Est-ce la voix de l'anti-France qui parle, ou celle de Pierre Cadel, retraité, qui n'a toujours pas compris qu'il faut oublier? Est-ce la voix d'un complot venu de ces temps révolus où les Français ne s'aimaient pas, Français ruminant, ressassant ces choses qui fâchent, choses qu'on avait repoussées, balayées sous le tapis de la République au nom des enfants de la patrie. Bien ingrats, les enfants de la patrie. Ils voudraient en finir avec le vieil ulcère, ils demandent des comptes, des éclaircissements, ils voudraient savoir, ils veulent de la justice, ils veulent du droit. Et de quel droit? Celui de l'homme. Eh oui, il ne fallait pas leur apprendre ça, leur donner le goût de ça. Retour de bâton, retour de papon. Aujourd'hui, on continue à évoquer le 17 octobre 1961 et... Pour situer un peu les choses, on peut rappeler qu'en août 1958, le FLN a porté la guerre en France par une série d'attentats visant des personnes et des biens. Le gouvernement réagit et fait appel aux compétences du préfet de police de Paris, Maurice Papon. Celui-ci instaure un couvre-feu pour les Français musulmans d'Algérie, comme on dit alors, et il organise de vastes ratonnades. On n'a pas oublié, dans la nuit du 28 au 29 août 1958, comment, sous son contrôle, la police procède à une vaste rafle où 2000 Algériens sont parqués au Veldiv par les policiers parisiens qui n'ont pas l'air trop gênés, 16 ans après la rafle du Veldiv de juillet 1942. Mais venons-en à cette année 1961. Côté métropole, 460 Algériens ont été abattus entre le 1er janvier et le 31 août 1961. Du côté de la police, 49 policiers ont été abattus depuis février 58, c'est-à-dire de 58 à octobre 61. 14, notamment, ont été tués entre août et octobre 1961. La tension monte et le 2 octobre, lors des obsèques d'un policier victime d'un attentat, le préfet Maurice Papon déclare à ses hommes « Pour un coup reçu, nous en rendrons 10 ». Le 4 octobre, avec l'accord du gouvernement, il met en place un couvre-feu concernant les Français musulmans d'Algérie, un véritable couvre-feu au faciès dont le caractère discriminatoire est évident. C'est contre cette mesure que le FLN, la FFLN, organise une grande manifestation de masse non violente pour le 17 octobre à 20h30. Les ordres du FLN sont clairs, la manifestation sera interdite
par le gouvernement. 7000 policiers prennent position, 1400 CRS et gardes mobiles. Les manifestants sont aux alentours de 30 000. Il y aura 11 730 arrestations. Les Algériens n'opposant aucune résistance aux arrestations. Les manifestants n'ont aucune arme. C'est la consigne très stricte, il faut le redire, de leur encadrement. Au Conseil des ministres du 25 octobre, le général de Gaulle déclarera « C'est secondaire, mais inacceptable ». Claudius Petit, député et ancien résistant, déclare à l'Assemblée nationale le 30 octobre « Nous vivons ce que nous n'avons pas compris que les Allemands vivaient quand Hitler s'est installé ». Le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, oppose ce défi « Je n'ai pas le début du commencement de l'ombre d'une preuve ». Le 13 novembre, Maurice Papon déclare « Nous avons gagné la bataille de Paris ».
Paris a connu des heures qui jusqu'alors semblaient n'appartenir qu'au difficile destin de l'Algérie. Obéissant de gré ou de force aux consignes du FLN, les musulmans de la capitale, mobilisant femmes et enfants, ont voulu protester contre les mesures prises par les autorités françaises pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme. Au cours de heures tragiques, un nombre considérable de manifestants ont été arrêtés, parmi lesquels beaucoup devaient être aussitôt dirigés en Algérie vers leur douar d'origine.
Dans la presse française du lendemain, du matin, du 18 octobre 61, qu'est-ce qu'on pouvait lire ? L'Aurore parlait d'une masse hurlante et menaçante à propos des manifestants. Paris Presse disait « Ils ont pris le métro comme on prend le maquis ». Le Parisien Libéré parlait d'un flot de musulmans qui déferlent vers le centre de la capitale en multipliant les exactions et les cris hostiles. Paris Jour parle de cette masse narguant les pouvoirs publics. Et même le journal Le Monde prétend avoir vu plusieurs hommes en civil de type nord-africain, c'était dans Le Monde, qui s'enfuient armés de pistolets mitrailleurs. Ça donne une idée du climat qui régnait aussi dans la presse. La suite prouvera, par parenthèse, que les manifestants n'étaient absolument pas armés.
Et là, les rafles ont lieu aux portes de Paris. Les violences ont lieu également, tout de suite. À l'époque, les policiers sont munis d'un manche de bois, une sorte de long manche de pioche d'1m10.
Jean-Luc Enaudi, historien.
Bien utilisé, mais on leur apprend à l'utiliser. Peut tuer. Ça fait éclater le crâne. Et ce jour-là, ça va être l'arme, une des armes les plus utilisées, le bidule. Et comme ces Algériens arrivent de plus en plus nombreux, Maurice Papon décide de réquisitionner les autobus de la RATP. Les autobus avec leurs chauffeurs. La dernière fois que ça s'est fait, ça, c'était en 1942, pour la RAF du Veldiv, c'est ça. Ça pose aucun problème à Maurice Papon. De la même façon que ne lui avait posé aucun problème en 1958, en septembre 1958, de faire interner plusieurs milliers d'Algériens au Veldiv. Et déjà à cette époque-là, en 1958, on avait parlé d'Algériens tués au Veldiv. En 1961, le Veldiv n'existe plus. Alors d'autres lieux sont réquisitionnés pour interner ces Algériens. Et notamment le Palais des Sports, à la porte de Versailles. Mais aussi le stade de Coubertin.
Quelques jours après, un Algérien témoigne pour la télévision belge.
J'ai été intercepté par la police. Celle-ci m'a amené dans le poste du boulevard de la Chapelle. On est passé à un supplice inhumain. Et de là, nous avons été amenés au parc de Versailles. Et je pourrais même l'affirmer avec des preuves irréfutables. À la descente du car, à la porte de Versailles, au palais de l'exposition, il y avait, je parie même, avec de la haute personnalité qui était présente. Et puis il y avait pas mal de gardiens de la paix ainsi que de supplétifs. On a été massacrés littéralement. Puis on est resté pendant 3 jours sans manger, sans la moindre nourriture, sur la poussière. J'en ai même vu des gens qui sont morts.
Pont de Neuilly. Les Algériens essayent de franchir le pont. La police et des supplétifs ouvrent le feu. Il y a des tués. Pont de Clichy, entre 19 et 20 heures, des Algériens essayent de franchir le pont. Et là, compagnies de district, ce qu'on appelle les compagnies de district, des unités constituées par Maurice Papon à partir de 1958-59 et qui ont pour unique fonction la répression. Et ce sont ces compagnies de district qui vont être le fer de lance de la chasse aux faciès ce soir-là. Pont de Clichy, donc, des Algériens essayent de franchir le pont et les membres de ces d'une compagnie de district interviennent, tirent. Les cadavres et des corps sont jetés dans la Seine. Hein, et ça, ce policier qui s'appelle Paul Rousseau et qui est un de ces policiers à qui il faut absolument rendre hommage. Parce qu'il y a eu, ils ont été peu nombreux, mais il y en a eu des policiers qui ont été, en tant qu'hommes, bouleversés et marqués pour leur vie entière parce qu'ils ont vu cette nuit-là. Et lui, c'est un de ceux-là.
Paul Rousseau était policier il y a 30 ans. Le 17 octobre 1961, dans la police, les câbles de frein des vélos disparaissaient étrangement.
J'ai vu certains collègues enlever les câbles de frein pour en faire usage de quoi, je n'en sais rien, puisqu'ils ne les ramenaient pas, les câbles de frein. Et quand ils faisaient des arrestations, ils emmenaient des Algériens, soi-disant, au centre de Vincennes. Ma foi, c'est peut-être possible aussi, mais enfin, malgré tout, les Algériens n'en revenaient pas et les câbles de frein non plus.
Donc vous avez pensé que ça pouvait servir, par exemple, à les étrangler ?
Ben, il a été... Moi, je ne l'ai pas vu, mais il a été repêché des corps dans le canal Saint-Martin, comme dans la Seine, où il y avait des câbles de vélo autour du cou des personnes qui avaient été étranglées, quoi, les Algériens.
Un témoignage, celui de M. Joseph Golen-Ginger. Depuis 20 ans, il est à la retraite à Chitry-les-Mines, en Bourgogne. Et dans la nuit du 17 octobre 61, il se trouvait à la porte de Versailles. Aujourd'hui, Joseph Golen-Ginger joue parfois de l'orgue à l'église de son village, mais certains souvenirs gâchent un peu sa retraite.
Eh bien, donc, à ma prise de service, au 15e arrondissement, on m'a chargé de commander un car police secours et de me rendre immédiatement à la porte de Versailles au palais des sports. Arrivé à la porte de Versailles, j'ai assisté à un spectacle vraiment navrant et inhumain. Des Français musulmans algériens descendaient des cars de la RATP, des cars de police, et au fur et à mesure qu'ils descendaient, c'est un euphémisme, qu'ils étaient projetés à l'extérieur, une rangée de deux policiers les accueillait à coups de bâton, à coups de matraque, avec tout ce que vous voulez comme violence. Il y en a qui étaient complètement assommés et blessés assez gravement, surtout à la tête. J'ai donc été chargé de ramasser quelques blessés assez graves et de les conduire à l'hôpital Boussicault.
Est-ce qu'il y a eu des morts, selon vous ?
Selon moi, je ne les ai pas vus, personnellement, mais paraît-il que ceci m'a été rapporté par des collègues dignes de foi, et il y en avait à l'intérieur du palais des sports.
Est-ce que vous aviez les moyens de vous opposer à la conduite de vos confrères ?
Aucun moyen. Quand j'ai voulu élever la parole et protester, on m'a menacé. Hein.
Qui vous a menacé ?
Des collègues. Des collègues qui avaient caché leur numéro matricule, parce qu'on avait une plaque à ce moment-là, avec le numéro matricule. Tous ces numéros avaient disparu. Les gradés avaient enlevé leur galon. Alors je me suis adressé à un sous-directeur qui était en haut des marches du Palais des Sports, et je lui ai demandé de faire cesser ce carnage. Ben, ce monsieur ne m'a pas répondu. Sans doute était-il dans le même cas que moi, se sentait-il menacé, je n'en sais rien. Mais enfin, personne n'a réagi et les gradés ont laissé faire. Moi personnellement, petit flic, que voulez-vous, où voulez-vous que j'intervienne à ce moment-là ? Donc il n'y avait que le syndicat qui pouvait faire quelque chose. Mais ma lettre a dû rester dans les archives, quoi, puisque Naudi l'a retrouvée. Ensuite, on a eu des discussions dans les réunions syndicales, dans les commissions administratives, où j'ai réitéré mes protestations. Mais il me semble que ça a été assez vain. Mais ce que je regrette, c'est que le syndicat n'ait pas réagi assez violemment. Ils se sont laissés prendre aux promesses du préfet de police de l'époque, quoi.
Comment vous jugez a posteriori l'encadrement de cette époque ?
Un encadrement un petit peu servile à la botte de quoi du préfet de police. Pas tous, hein. Je regrette, hein, pas tous. Mais beaucoup de gradés avaient peur de se mouiller, comme on dit vulgairement. Enfin, tout ça. Ouais. Moi, il faut témoigner parce que vraiment cette affaire-là m'est restée sur l'estomac, comme on dit. Hein, parce que non, je ne comprends pas le comportement d'êtres humains, hein, à ce point-là. On peut avoir de la haine, on peut avoir de la méfiance, mais aller à ce point-là, assommer, frapper, voire tuer, hein, c'est inadmissible pour des hommes.
Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. À partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10.
Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire sanguinaire de mon canton. Après m'avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du cru au quotidien. 17e jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre. En effet, le journal de la veille titré, couvre-feu recommandé pour les immigrés. Non, la réaction ne s'est pas faite attendre. Algériens de France dans les rues, nous allons descendre. Protester contre leurs lois discriminatoires, investissons leurs ponts et leurs centres giratoires. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rares rebelles. Marchons en direction du pont Saint-Michel. Nous verrons bien quelle sera l'issue de cette querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages. Puis une voix se lève, scande à bas le couvre-feu et ouvre le feu. La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je galope. Mais le pont est cerné, nous sommes bernés dans une prison sur pilotis, nous sommes enfermés. Pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anorak. Ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs, leur bouche s'esclave bien grande de nous voir. Nous allons voir si les rats savent nager. Au fond de la Seine, vous ne pourrez plus vous venger. Inconscient, gisant dans mon propre sang, les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant. Amorce ma descente, là où passent les péniches, s'assure de ma mort, frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide d'ordure. Dans la chute, violemment, ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices. Le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer. Aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil, sans penser aux tirailleurs et combattants soif. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen.
Paris, le 30 octobre, devant les députés, Roger Frey affirme, et cette phrase restera célèbre, « Je n'ai pas le moindre commencement du nombre de preuves des accusations portées contre la police. » Il y a eu ce jour-là l'intervention courageuse de Eugène Claudius Petit du groupe de l'Entente démocratique. Il dira ceci, « Faudra-t-il donc voir prochainement, car c'est la pente fatale, la honte du croissant jaune après avoir connu celle de l'étoile jaune ? Car, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que nous vivons. Nous vivons ce que nous n'avons pas compris que les Allemands vivaient quand Hitler s'est installé. La bête hideuse du racisme, que les civilisations, que les institutions ont tant de peine à refouler au fond du cœur de l'homme et de son esprit et de sa raison, la bête hideuse est lâchée. Vite, monsieur le ministre, et là il s'adresse évidemment à Roger Frey, vite, monsieur le ministre, refermez la trappe. On retrouve Jean-Luc Enaudi.
Dans la cour de la préfecture de police, il y a des milliers d'Algériens qui sont amenés là d'abord, avant d'être transférés vers d'autres centres de détention. Et là, des scènes de violence terribles ont lieu aussi. J'ai le témoignage d'Algériens que j'ai rencontrés, que je suis allé chercher, en Algérie notamment, qui m'ont décrit le degré de cette violence dans la cour de la préfecture de police, là où se trouvait Maurice Papon, qui était dans la salle de commandement de cette préfecture de police. Des scènes de lynchage commis par des policiers. Et dans le courant de la nuit, tout indique que des Algériens, probablement plusieurs dizaines, sont tués. Vers minuit, plusieurs policiers, en tenue, sous le choc, se présentent au siège du journal France Observateur et ils demandent à voir les responsables du journal. Ils voient Claude Bourdet, qui est directeur, et Gilles Martinet, qui est rédacteur en chef, qui les reçoivent. Et ces policiers leur disent que 50 Algériens viennent d'être tués dans la cour de la préfecture de police. Claude Bourdet et Gilles Martinet sont prudents. Au départ, sont prudents. Parce que ça peut être une provocation. France Observateur a été souvent saisi. Et la saisie, c'est le meilleur moyen de faire couler un journal. Mais devant le témoignage de ces hommes, ils ne peuvent que les croire. Les hommes qu'ils ont là, à ce moment-là, devant eux, sont complètement authentiques.
Alors, Claude Bourdet a décédé, mais nous l'avions rencontré en 1991 et il évoquait ce que fut pour lui le 17 octobre au bureau de son journal qui s'appelait à l'époque le France Observateur.
Ce que ça évoque de la manière la plus criante, c'est la visite que nous avons reçue à France Observateur quelques jours plus tard. Ça devait être le lendemain ou deux jours plus tard, d'un petit groupe de 3 à 4 policiers qui sont venus les yeux hors de la tête, nous raconter ce qu'ils avaient vu. Et à ce moment-là, nous n'étions, comme tous les journaux, pas du tout au courant de tout ce qui s'était passé. Nous savions qu'il y avait eu des horreurs, mais nous ne savions pas jusqu'à quel point. Savoir que on avait massacré des Algériens manifestant pacifiquement, qu'on les avait massacrés jusque dans la cour de la préfecture de police, comme sont venus nous le dire, presque en pleurant, les policiers en question, ça, nous ne l'imaginions pas.
On parle d'événements qui datent d'il y a 30 ans. Très souvent, on compare la façon dont on a traité la guerre d'Algérie chez nous par rapport à la façon dont nos confrères américains ont traité la guerre du Vietnam. Pourquoi un si long silence ?
La droite, premièrement, n'a jamais voulu croire à toutes les atrocités de la guerre française d'Algérie. Et la droite pensait que dans la mesure où on avait assassiné des Algériens, c'était très bien. Quant à la gauche, elle avait honte. Elle avait honte de la France, elle avait honte d'elle-même. Et puis elle avait peur, parce qu'il faut bien dire que la brutalité de l'État dit républicain ou de l'État gaulliste, ensuite, contre les gens qui dénonçaient la guerre d'Algérie, n'était pas vaine, c'était pas peu de choses. En Amérique, les gens qui se sont battus contre la guerre d'Indochine n'ont pas été en prison, on n'a pas saisi leurs journaux, et ils ont pu faire à peu près ce qu'ils ont voulu, parce que l'Amérique, avec tous ses défauts, est une vraie démocratie, ce que n'est pas la France.
On peut considérer que les Français n'ont pas digéré, la guerre d'Algérie. Si on peut imaginer qu'on mette aussi longtemps à digérer quelque chose, 30 ans, ça finirait par ulcérer un peu un corps social.
Oui, oui. Digérer, ulcérer, ça me paraît juste.
D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Des cas des os pour les gens déshumanisés. Déshumanisés, les basanés ne font pas de vieux os. D'étranges nénuphars flotte sur la scène, séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir, ratonnade sous les boulevards. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire Maurice Papon. 4 mois plus tard, on ratonne à Charonne, les crouilles et les cocos qui aident les bougnoules.
132 ans d'occupation française ont servi à remplacer nos cœurs par des braises. Algérie, en vert et blanc, étoilé croissant, devoir de mémoire grandissant, Jésaïre.
Il pleuvait énormément, il y avait beaucoup de vent, et à un moment donné, j'ai vu que des bouches de métro commençaient à sortir des Algériens qui avaient les mains à hauteur d'épaule. Ils montraient qu'ils avaient les mains vides, qu'ils étaient complètement pacifiques. Et à ce moment-là, j'ai vu surgir, mais je dis vraiment surgir parce que je ne les avais pas remarqués, des inspecteurs de police, je dis bien aussi des inspecteurs et pas des policiers en habit, qui se sont mis à les matraquer avec leur revolver. Et aussitôt qu'un essayait de se relever, ils leur redonnaient des coups. Ces gens tombaient dans la boue, ce qui n'empêchait pas ceux qui arrivaient derrière de continuer, de sortir, sans aucune peur. Ils avaient vraiment l'air d'être tranquilles et sûrs d'eux-mêmes, alors qu'ils voyaient très très bien ce qui se passait devant eux. À un moment donné, il y avait très peu de monde dans la rue, je parle des Français. À un moment donné, un monsieur s'est précipité sur un Algérien qui venait de tomber, et il a voulu le secourir, et un inspecteur est arrivé et a commencé à le matraquer. Ce monsieur a dit « Mais arrêtez, je suis docteur », et il a été matraqué comme les autres. Il est tombé par terre aussi dans la boue. Je dois dire que je n'ai pas vu une femme arrêtée ni un enfant arrêté. Au bout d'un certain temps, sont arrivés de grands, grands cars, et là j'ai vu des policiers en habit, effectivement, qui, à coups de grands bidules, faisaient monter les Algériens qui tenaient encore sur leurs jambes dans les cars. Et puis, au bout d'un moment, c'est-à-dire au bout de 2 heures environ, cette horreur s'est arrêtée.
À Alger, nous avons pu joindre Messaoud Awam, qui était à l'époque affilié au FLN, mais dit-il, n'était pas politicien. Il était arrivé à Paris en 1953 pour travailler, et il en est reparti en 1961. Voilà le récit au téléphone de Messaoud Awam.
Ce jour-là, moi j'étais prêt comme tant d'autres. Ils m'ont fait monter de force. C'était un groupe de policiers isolés. Je me trouvais à bord d'un machin, on appelle ça police secours. Juste dedans, dans le fourgon, j'ai trouvé un autre collègue qui était tabassé à mort. Il était déjà allongé en le parterre. Alors, à mon tour, j'ai reçu une pluie de bâtons sur le crâne et puis j'ai pas eu le temps de réagir. Je me trouvais allongé entre leurs pieds, au lieu de réagir, moi j'ai dit « bon ben je vais me contenter de me laisser faire comme le collègue » parce que c'était l'effervescence comme on disait à l'époque. Ils étaient acharnés. Quand le fourgon s'est arrêté, s'est immobilisé, ben j'étais surpris de me trouver dans un endroit isolé, totalement isolé. C'était des arbres et il y a le fleuve. Il y a un fleuve qui s'appelle la Seine et on était deux. Ils nous ont fait descendre. Et puis, quand j'ai vu l'eau, alors j'ai compris qu'ils allaient nous achever ou nous jeter à la Seine. Et quand j'ai entendu leur chef leur dire « Mettez-vous en disposition », j'ai entendu un cri de mon camarade. Et bien, tout de suite après, c'était mon tour. J'ai reçu un coup, je ne sais pas, à la nuque ou quelque chose comme ça. Et j'ai perdu complètement connaissance. Je me suis pas rendu compte qu'ils m'ont pris tous mes papiers, ils m'ont ligoté les pieds, les mains, ils ont même fait un anneau autour du cou, et puis ils m'ont pris par les bras et les pieds, ils m'ont balancé dans la Seine. Et par chance, une fois que j'étais dans l'eau, j'avais la moitié du corps dans l'eau, et une partie de mon corps est restée encore à la surface, à la rive. Et j'ai entendu quelqu'un dire « Pousse-le, pousse-le !» Alors il m'a poussé d'un coup de pied pour me mettre complètement à l'eau. je sois noyé et emporté par le fleuve.
Il a fallu des années et des années pour que ces témoignages nous parviennent. Cette voix, celle de M. Messaoud, nous l'avons enregistrée en 1997. On a parlé beaucoup dans l'émission précédente, et à nouveau Jean-Luc Kennedy a évoqué les harkis de Paris, ceux du FPA, de la FPA, de la force de police auxiliaire, qui on a évoqué aussi hier, dans l'émission d'hier, avaient été recrutés par le préfet de police, Maurice Papon, pour infiltrer le milieu des Algériens de Paris, la région parisienne, et réprimer les militants du FLN. Vous verrez dans le film Octobre à Paris, qui sort, qui a été filmé à l'époque, entre octobre et mars 62, le film de Panigel, des témoignages de ces Algériens qui ont été torturés. Il y a eu de la torture à Paris. Didier Daninx disait à quel point il y a eu aussi de la torture dans la région parisienne, plus généralement. Mais on a rencontré à cette époque, en 1997, avec Guy Van Ctil, M. Moussaoui, qui était chef de section du FPA, des forces de police auxiliaires, et qui à l'époque était conseiller du maire du 19e arrondissement de Paris, M. Moussaoui.
Le 17 octobre n'a pas constitué une date historique, ça a été une date d'événement exceptionnel, dû à une forme d'insurrection qui voulait envahir Paris. Notre République avait laissé faire, l'insurrection aurait dégénéré dans des conditions incontrôlables. Quant à moi, je n'ai pris position que tard dans la soirée du 17 octobre et je me situe avec ma formation en appui des forces institutionnelles des services de police, c'est-à-dire les compagnies de district à l'époque, à la porte de la Villette. C'était plus pour soutenir l'action de ces forces et essayer de faire comprendre aux Algériens qu'ils n'avaient pas intérêt à rentrer dans Paris parce que ça aurait dégénéré, que pour les repousser par la force ou je ne sais ce qu'on a pu inventer dans cette affaire. Mais c'était une opération de maintien de l'ordre. Rien de plus.
Vous, à l'époque, vous faisiez partie de...
J'étais chef de section dans les forces de police auxiliaires.
C'est-à-dire, c'était, pour expliquer aux auditeurs, les forces de police auxiliaires, c'était des groupements qui avaient été formés, oui, et qui étaient essentiellement composés de harkis, comme on disait.
Oui, si vous voulez. C'est un terme qui est... Moi, personnellement, je le trouve tout à fait correct, mais beaucoup de gens qui en avaient fait partie le trouvent péjoratif. Et bien sûr, c'était des supplétifs qui étaient mis à disposition du gouvernement et du préfet de police pour lutter contre le terrorisme FLN qui s'abattait sur le pays, et notamment à Paris, Marseille et les autres grandes agglomérations où il y avait des organisations subversives particulièrement actives et qui n'hésitaient pas à tuer dans des conditions extraordinairement méchantes. Et puis voilà, c'était la guerre. Qu'est-ce que vous voulez
C'était la guerre, mais la particularité du service dans lequel vous avez fait partie, c'était des Algériens qui étaient amenés en France pour lutter contre les Algériens.
Non, ils ne luttaient pas contre les Algériens, ils protégeaient les ouvriers algériens. C'était le but de la manœuvre pour pénétrer les cellules et l'organisation terroriste FLN qui faisait régner la terreur dans toutes les populations, et notamment celles qui étaient le plus touchées, c'était justement les populations algériennes. Leurs propres frères qu'on tuait pour un rien, pour une cotisation non payée de 30 francs, on le tuait, on le retrouvait dans une poubelle le lendemain. La terreur ne venait pas de nous, parce qu'on était quand même républicains et légalistes. Je puis vous assurer que tout ce qui a été dit à ce sujet est sans fondement dans les grands principes.
Pourtant, il y a eu des témoignages qui assurent que la force de police normale, oui, plus les forces de police auxiliaires, oui, ont commis quand même plus que des excès, puisqu'on chiffre à peu près à 200 morts.
Oui, mais c'est toujours officieux. Qu'est-ce qu'il y avait ? Les fonctionnaires qui intervenaient contre cette manifestation étaient armés de bâtons, comme toutes les polices du monde. Il n'y a pas eu de mort.
C'était les bidules, c'est ça, on
appelait ça. Non, c'était, c'était des petits bâtons en acacia qui étaient très fragiles. Ça provoque bien sûr des blessures si on tape méchamment. Mais croyez-moi, moi, je n'étais premièrement pas là où on dit que les gens sont tombés dans la Seine. Je n'étais pas là, je n'ai pas participé. Et en tout état de cause, c'était un complot qui avait été monté par des responsables. Maintenant qu'il y ait eu des gens qui soient tombés dans la Seine sous la pression de la foule, sur les barrages de gendarmes ou de policiers ou d'effectifs qui étaient au pont de Neuilly, ça peut, j'étais pas là, je peux pas vous l'affirmer. Et il y a eu des événements qui n'ont pas été rapportés volontairement, comme par exemple le fait que des éléments de cette manifestation sont apparus avec des armes, et on avait bien pris le soin, ceux qui les manipulaient, de mettre dans ces armes des balles à blanc pour provoquer simplement la police, hein. Et heureusement qu'ils n'ont pas tiré dans le tas comme certains l'avaient envisagé. Vous voyez ?
Voilà la version de Monsieur Moussaoui, donc, qui était chef de section des forces de police auxiliaire, c'est-à-dire des harkis à l'époque à Paris, et qui, lorsque nous l'avions rencontré en 1997, était conseiller du maire du 20e arrondissement de Paris. On va finir cette heure aujourd'hui avec Benjamin Stora, que vous connaissez, qui est historien, spécialiste de cette période, de toute la guerre d'Algérie, et qui essaye inlassablement de prendre en compte toutes les mémoires et toutes les souffrances.
Pour qu'une mémoire soit portée dans l'espace public, pour qu'elle existe, il faut des groupes capable de la porter. Or, la grande leçon, c'est le combat livré par les enfants issus de l'immigration algérienne en France. Et dans le fond, si le 17 octobre 61 existe aujourd'hui comme il existe, et de quelle manière dans l'espace public français, on le doit en grande partie au combat livré par les enfants de l'immigration algérienne en France. Dans le fond, la reconstruction d'une identité à l'intérieur de la société française passe par une demande de réparation de l'État français. C'est une façon de s'intégrer dans la société française, de se voir reconnaître comme citoyen. C'est une exigence de citoyenneté. Je crois que ça, c'est très fort, hein. C'est-à-dire que cette mémoire, elle explose aujourd'hui, dans le fond, par revendication de citoyenneté adressée à l'État. Ça, c'est très, très, très important et très, très intéressant à analyser. Bon. Voilà un premier lien, déjà. Bon. Il y a peut-être d'autres liens possibles sur cette question. C'est que la reconnaissance de ce qui s'est passé dans cette nuit tragique du 17 octobre 61, c'est aussi la possibilité, pourquoi pas, d'entrevoir sur la question algérienne, de la guerre d'Algérie, une possibilité aussi de reconnaissance des souffrances de l'autre. Pour qu'une mémoire authentique sur la guerre d'Algérie puisse se constituer en France, il faudrait que les groupes qui chacun apporte des mémoires particulières et cloisonnées reconnaissent les souffrances de l'autre. Bon. Mmh. En l'occurrence, les pieds noirs qui ont été obligés de quitter cette terre, qui ont été arrachés à la terre qui les a vus naître, qui est un déchirement. Il y a la mémoire des harkis aussi, bon, qui est une mémoire douloureuse, qui ont le sentiment d'être les grands oubliés de l'histoire. Bon. Bref, on a cette mémoire algérienne douloureuse qui surgit de tous les côtés en même temps aujourd'hui, venant des harkis, venant des pieds noirs, venant des enfants issus de l'immigration algérienne en France. Et on peut, à partir de là, réfléchir à une possible réconciliation de mémoire qui permette d'en finir avec cette guerre. Alors, il faudrait peut-être apaiser maintenant tout ça. Et bien, cet apaisement, peut-être, passe par une reconnaissance de toutes les souffrances, de tous les groupes qui ont été confrontés à la guerre d'Algérie.
Merci Benjamin Stora, merci à tous Jean-Luc Enaudi, Pierre Cadel, Joseph Golem-Ginger, Messaoud Awam, Monsieur Moussaoui. Merci à tous. Alors, manif
lundi prochain, le 17, le 50e anniversaire, qui partira à 18h devant le cinéma Le Rex, c'est-à-dire à Paris, au carrefour du boulevard Bonne Nouvelle et boulevard Poissonnière, jusqu'au pont Saint-Michel. Mais pour l'instant, la préfecture refuse toujours d'autoriser la manifestation au motif que le parcours décidé passe trop près de la préfecture de plus de 50 ans après. Donc, mais le collectif, de son côté, ne veut pas changer d'itinéraire puisqu'il s'agit de la route empruntée il y a 50 ans par les manifestants et bien souvent par les parents et grands-parents de ceux qui seront là ce lundi. Donc, je le répète, 18h devant le cinéma Le Rex. À voir sur le sujet beaucoup de choses, beaucoup de films, dont un dessin d'animation Octobre Noir, réalisé par Florence Corr et Aurel, et produit par La Fabrique, qui sera projeté à Paris, à La Courneuve, à Montpellier, à Lille, dans les prochains jours. Beaucoup de manifestations, beaucoup de rencontres, beaucoup de meetings passionnants à suivre un peu partout, et des manifs, notamment à Marseille. On en reparlera et vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, où nous attendons comme chaque jour vos commentaires. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Ronan Mahé, Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission à cité de Marina Touillez, et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Quand on achète un logement, on est toujours un peu perdu. Heureusement, la certification NF Logement vous aide à vous y retrouver. Choisir un logement certifié, c'est l'assurance d'un logement de qualité, confortable et performant. Et en plus, avec le label BBC, bâtiment basse consommation, vous êtes sûr de réaliser des économies d'énergie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur qualitel.org.
C'était un message de Qualitel, l'association pour la qualité du logement.
Du 15 au 21 octobre, venez à la fête de l'énergie pour faire le plein de conseils auprès de votre espace info énergie et réaliser des économies dans votre logement.
Pour participer aux animations près de chez vous, rendez-vous sur infoenergie.org ou au 0810 060 050, prix d'un appel local. Faisons vite des économies d'énergie, ça chauffe. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après.
Maman, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de nous?
Eh bien, ça te dirait que votre argent de poche corresponde à 0,25% du PMSS.
Hein, le je comprends rien.
Bah nous non plus, on ne comprenait rien. Jusqu'à ce qu'on souscrive à un contrat santé pour la famille chez Malakoff Médéric.
Malakoff Médéric prend soin de vous. Pour une meilleure lisibilité, vos droits santé sur votre espace client en ligne sont exprimés en euros et non plus en pourcentage. C'est ça, prendre soin de la santé, du bien-être et du bien vieillir de chacun. Malakoff Médéric, présent pour votre avenir.
France Inter, partenaire de la Fiesta des Suds, du 14 au 30 octobre à Marseille. Pour cette 20e édition, une journée, 7 soirées, 45 concerts. Avec Amadou et Mariam, Paco de Lucia, Kid Creole and the Coconuts, Catherine Ringer, Raphaël Saadic, Another Honest John Chop Up avec Damon Albarn, Tony Allen et bien d'autres. Retrouvez le samedi 15 octobre l'Afrique Enchantée en public des Docks des Suds à partir de 18h et participez au bal de l'Afrique Enchantée dès 23h. Renseignements sur franceinter.fr.
16h et quelques secondes sur Inter. On se retrouve lundi à 15h pour la base. J'y suis. Bon week-end à tous. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
C'est une agression lâche qui réclame la sanction la plus sévère. La réaction cet après-midi vient communiquer de François Hollande à propos de l'attaque au sabre dans la préfecture de Bourges ce matin. Un homme qui s'était vu refuser un permis de port d'armes s'en est pris à une employée de la préfecture et à deux policiers venus en renfort. Une jeune femme policière a été tuée. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, est actuellement sur place. Le trafic des bus est perturbé depuis ce matin à Chambéry. Les chauffeurs de bus ont décidé d'exercer leur droit de retrait suite à l'agression aujourd'hui d'un contrôleur qui a reçu une pierre à la hanche. En Tunisie, la police a usé de gaz lacrymogène aujourd'hui pour disperser un rassemblement d'islamistes dans la capitale. Ils tentaient de marcher en direction du bureau du Premier ministre dans le centre de Tunis. Ces islamistes réclament l'instauration de la charia, la loi islamique en Tunisie. Les forces de sécurité syriennes ont ouvert aujourd'hui le feu sur des manifestants dans plusieurs régions du pays. D'après l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, au moins 7 personnes ont été tuées. Hier, il y en a eu plus d'une trentaine lors d'affrontements. Les monarchies du Golfe ont appelé à se réunir d'urgence. Retour en France, c'est un accident rare, mais qui heureusement ne s'est pas passé en pleine saison. On l'apprend aujourd'hui, 5 télécabines se sont décrochées hier à Flaine. Il n'y avait pas d'occupants à l'intérieur, heureusement. Ça s'est passé lors d'un contrôle des équipements sous les yeux de 4 employés. Les télécabines ont fait une chute de 30 mètres. Écoutez les explications du directeur de la station de ski de Flaine en Haute-Savoie, Frédéric Marion.
Pour moi, c'est un incident qui est rarissime. Donc, il y a eu un phénomène au niveau des pinces, des attaches entre le câble et les cabines. Il y a plusieurs hypothèses qui vont être travaillées. L'appareil est sous-scellé, donc il n'y a que les experts qui sont assermentés et habilités à aller voir l'appareil. Il est clair que nous, on ne rouvrira l'appareil que quand on aura des causes arrêtées et bien sûr tous ces problèmes levés. On patientera le temps qu'il faut.
Ça peut repousser l'ouverture du domaine skiable ?
Non, pas du tout, parce que nous avons un ensemble assez important de remontées mécaniques. Hein. Sur le site de Flaine, on a 27 remontées mécaniques. Le principe des visites d'avant-saison, c'est justement de tester les appareils de toutes les manières possibles et imaginables. Donc, c'est effectivement tellement inhabituel que je vous cache pas que c'est quand même quelque chose qui est assez fort. Par contre, je pense que la crainte et les interrogations ne concernent que cet appareil-là.
Des propos recueillis par Augustin Arrivé. La station de ski de Flaine doit rouvrir ses portes ou ses pistes plutôt le 10 décembre prochain. Voilà qui devrait vous rassurer. Didier Varro, Johnny Hallyday n'a nullement l'intention de quitter la Suisse. L'entourage du chanteur a voulu démentir aujourd'hui les rumeurs sur son retour en France. Johnny Hallyday, qui joue actuellement au théâtre Édouard VII à Paris, se rendra à l'issue de ses représentations dans son chalet de Gstaad pour les fêtes de fin d'année. Et puis voilà qui n'a rien de ragoûtant après les cacahuètes pleines d'urine. Une étude britannique très sérieuse affirme aujourd'hui qu'un portable sur 6 présente des traces de matière fécale. La faute à la mauvaise hygiène de leurs utilisateurs qui ne se lavent pas les mains correctement après être allés aux toilettes. Voilà, c'est dit, 16h03 sur Inter.
Nous autres.
Soyez les bienvenus à Binissa et en Algérie.
Bravo. Zoé Varier.
Une heure accoudée à regarder la Méditerranée. Oran la radieuse, Oran la délaissée.
Alors chaque mur, chaque mètre, chaque pierre, elle raconte une histoire. On doit sauvegarder cette pierre pour les générations qui viennent.
Ça manque d'air à Oran et la mer n'y change rien.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
Allez, c'est à vous, Didier Varro.
Vous en avez d'autres comme ça, des nouvelles ?
Non, j'ai mon quota d'horreur pour la journée.
Vivement 17h pour vous retrouver. C'est parti.
Quand la musique donne sur France Inter.
Juste avant de retrouver Philippe Catherine et Chloé, qui n'est pas encore arrivée, elle doit être dans les embouteillages. J'espère qu'elle va arriver d'une minute à l'autre pour lui permettre d'arriver sans être trop essoufflée. Le mix libre du mois d'octobre, c'est parti. Il s'appelle Green Shape, une vie qui balance entre Kurt Cobain et Johnny Cash. Une gueule qui aurait pu être cassée par la boxe, mais quand la musique donne, elle peut sauver du chaos sur le ring.
Get off here and go. Back lead. Wait on your kisses to feel better. Could not bear that she got love. I could not bear that she gets stronger. La la la.
Voici venir le scope. Il fallait bien que le chanteur ténébreux du groupe Asile se perde dans la forêt pour ressusciter une pop sous influence divine entre Dark et Dao.
Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé. Situation compliquée. Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue. Dans la forêt, la première détonation résonne. Un coup de feu, puis de mon corps qui frissonne. Puis doucement s'écroule.
Composer, un drôle de nom pour un duo. Lorsqu'un songwriter rencontre un sound designer, il y a forcément du bon son, mais aussi une sérieuse aptitude à faire danser les foules comme il se doit. Joachim a pris des coups de soleil qui du même coup ont fait fondre ces monstres fous qui hantaient jadis sa musique. DJ, producteur et désormais roi de la pop, c'est l'Eden Electro.
Le mix libre, à retrouver en détail sur franceinter.fr. Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chansons, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Il est chanteur, elle est DJ. Il est né à Thouars, elle est née à Paris. À 17 ans, il a troqué le basketball pour la pop. À 19 ans, elle a quitté les bancs de la fac d'Assas pour les banquettes pourries du pulp. Il a commencé à écrire des chansons parce qu'il ne savait plus comment parler aux gens. Elle a commencé à mixer pour transcender son esthétique de l'équivoque. Il a lancé le concept de « fashion faux pas » pour désigner une trahison à la mode. Elle a toujours eu peur d'être poussée par le vent du fait de son statut de femme et de DJ. Il porte les couettes de Sheila, sans équivoque. Elle porte le jean sans ambiguïté. Il écrit dans son livre « Je suis un menteur à l'infini ». Elle écrit dans son livre le mot persienne de Louis Aragon à l'infini. Il a intitulé son livre « Doublez votre mémoire ». Elle a intitulé son livre « Chasser croisé, le surréel et son écho ». Il chante aujourd'hui sous le nom de Francis et ses peintres. Elle réalise aujourd'hui une pièce radiophonique sur le surréalisme. Il s'appelle Philippe Catherine. Elle s'appelle Chloé. Deux noms en deux initiales. Cassé. Catherine